Kevin Partenay, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre ouvrage s'intitule « Crise en Amérique latine » avec ce sous-titre « Les démocraties déracinées 2009-2019 ». Alors, que s'est-il passé concrètement en 2009 ?
Alors, en 2009, le cycle s'ouvre avec un coup d'État au Honduras qui a expulsé le président en exercice, Manuel Zelaya, qui tentait de réformer la Constitution, ce qui n'a pas plu à certaines forces conservatrices qui ont sauté sur l'occasion pour pouvoir justement l'expulser du pouvoir.
En quoi cela marque justement peut-être un retour en arrière ou en tout cas un cycle nouveau sur la scène latino-américaine?
Alors, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que pour moi, effectivement, cet événement est un début de cycle dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire, on va dire, récente de l'Amérique latine que l'ordre démocratique subit une rupture de cette nature. Et on voit a posteriori que ça ouvre un progressif détricotage des textes constitutionnels qui n'hésitent pas à réformer donc le pacte national pour pouvoir donc favoriser le maintien au pouvoir de président de la République, notamment, de retravailler les équilibres institutionnels. Et en l'occurrence, ce coup à la démocratie est une porte qui s'ouvre donc dans le continent et qui va perdurer jusqu'en 2019, puisque c'est l'écho, l'aboutissement de la réflexion que je mène dans le livre, avec le coup d'État qui est mené en Bolivie.
Alors justement, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on se souvient qu'en Amérique latine, effectivement, on a eu une période de dictature extrêmement dure jusque dans les années 80. Ensuite, un renforcement effectivement des démocraties, donc là, en 2009, on voit le Honduras. Est-ce que ça a une résonance particulière dans d'autres pays d'Amérique latine ?
Alors, les résonances, elles ne sont pas directes. Chaque crise qui a suivi a été profondément singulière, mais on observe néanmoins une matrice commune à la région. Déjà, des faiblesses institutionnelles, faiblesses de l'État qui sont extrêmement profondes, qui découlent en très large partie d'un dysfonctionnement de la démocratie électorale. On le voit aujourd'hui, les demandes sociales ne sont plus canalisées par l'élection, bien qu'elles soient organisées à échéance régulière, et ça fragilise la légitimité des représentants et l'action de l'État. Par ailleurs, je parlais des constitutions, le contrat qui lie le peuple avec les autorités politiques a lui aussi été très largement fragilisé. Et puis ces retours en arrière, ils ont été aussi, dans cette stabilité de la démocratie, très largement entachés par la multiplication des affaires de corruption. Donc on a là un clash entre la façon dont évoluent les institutions et la façon dont évoluent les demandes sociales, qui explique très largement pourquoi on est, alors si ce n'est pas forcément un retour en arrière de la démocratie, on est sur la base d'une fragilisation très importante de la démocratie.
On peut revenir peut-être sur les dernières crises auxquelles on a assisté, c'est-à-dire on a vu ce qui s'est passé au Chili.
Tout à fait. Le cas chilien est très emblématique de cette évolution de la démocratie que je décris. Ces fameuses transitions qui ont été érigées comme des modèles de réussite, en réalité, ont accentué d'autant plus la séparation entre les institutions, l'État et la population. Alors, il y a cet héritage de la constitution Pinochet qui est aujourd'hui très présent dans la symbolique contestataire, on l'a vu dans les épisodes de 2009, cet héritage du passé qui est rejeté aujourd'hui par la population.
Mais au-delà de ça, avec justement un référendum qui a montré qu'il fallait une nouvelle constitution.
Voilà, c'est ça, avec une volonté donc de transformer en profondeur. C'est pas simplement une question de président en exercice, c'est pas simplement une question de loi qui fait l'objet de contestation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour ça que je parle de fracture enracinée. Ou en l'occurrence là, dans cette affaire et au-delà même de la constitution de Pinochet, on voit que certaines fractures au sein de la société chilienne remontent aujourd'hui beaucoup plus dans la mesure où ces inégalités, elles ont été accentuées par le néolibéralisme. Elles ont été accentuées donc par une sorte de domination d'une élite au pouvoir depuis trois décennies, et ces demandes sociales aujourd'hui, elles se sont exprimées de manière violente, mais c'est vrai pour d'autres pays également qui ont été pour certains érigés en des succès de démocratie, succès économique, c'est le cas du Brésil avec l'émergence brésilienne. Mais en réalité, on constate quoi ? On constate que les ruptures au sein de la société entre la population, les institutions, l'État, eh bien, elles sont importantes, et en l'occurrence, dans le contexte qu'on vit, à l'issue d'une décennie de progressisme, tel qu'on l'a appelé, avec, comme je l'indiquais, des demandes sociales très fortes en matière d'inclusion, de cohésion et de participation, eh bien, ça pousse à la manifestation, à l'expression de crise politique via des contestations qui sont très fortes.
Ce qu'on voit également au Pérou, justement un rejet de cette corruption. On a vu une valse de présidents.
Exactement. Alors, sur cet angle de la corruption, et encore une fois, là, le Pérou est lui très emblématique. Et c'est vrai qu'au-delà de cette valse des présidents dont on a parlé, qui a été manifeste ces derniers jours, avec la succession de quasiment trois présidents en l'espace d'une semaine, en réalité, encore une fois, si on regarde un peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une population qui est lassée d'une injustice, d'une conception de l'impunité au sein de la classe politique, qui en réalité montre quoi ? Eh bien, une structuration sociale du pouvoir qui est héritée du passé et qui est aujourd'hui profondément remise en question de la même façon. La question de la corruption au Pérou s'inscrit directement sur ce terrain. Le modèle néolibéral a produit un certain nombre de résultats sur le plan économique, mais il a produit aussi un certain nombre d'externalités négatives sur le plan social, qui aujourd'hui font un retour de boomerang vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la démocratie.
Avec la crise sanitaire qui a aggravé toutes ces situations, avec la pandémie.
Oui, effectivement, qu'il a très largement démultiplié les effets d'inégalité, démultiplié la fragilité économique de certains États du fait d'une dépendance très forte à l'agro-exportation. Bref, ce qu'on voit, c'est que ce chemin un peu linéaire de progrès autant économique que démocratique n'est en réalité pas linéaire et que des retours en arrière sont possibles. Et effectivement, on a vu avec cette séquence de crise politique, le développement a été peut-être un développement économique, mais a très peu été un développement social.
Alors on voit quand même des résistances, comme par exemple le Nicaragua ou le Venezuela.
Oui, alors là, ce sont des cas, on va dire, atypiques dans le paysage, dans la mesure où on est en réalité très loin d'une discussion sur l'évolution de la démocratie, sur d'éventuelles faiblesses, puisqu'on est sur des scénarios qui sont pleinement, si ce n'est autoritaires, dictatoriaux, où là, depuis 2014, dans le cas du Venezuela, depuis 2018, dans le cas du Nicaragua, la démocratie, on peut le dire, a été mise de côté. Et c'est les leaders au pouvoir verrouillent littéralement la société, capturent l'État et ses ressources. Et là, on a véritablement observé une régression démocratique de manière extrêmement claire.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les États-Unis donc, utilisent moins l'Amérique latine comme leur arrière-cour, comme c'était le cas dans les années 70 et même bien avant ?
Dans les 10 dernières années, ce qu'on a vu précisément, c'est l'articulation de nouvelles configurations de forces extra-régionales sur le terrain latino-américain. Autant la Chine que la Russie sont des acteurs, on va dire, importants dans ce scénario géopolitique. Aujourd'hui, on est dans un jeu qui est beaucoup plus multi-acteurs et qui voit des influences croisées et aussi des compétitions de ces grandes puissances sur le terrain latino-américain.
Et 2020, 2021, qu'est-ce que ça dit ?
C'est extrêmement dur, d'autant plus dur à prévoir et à envisager que les conséquences de la Covid-19 sont très dures, mais ne sont pas épuisées. Donc il faudra encore attendre un peu, voir comment les États auront la capacité d'intervenir et de réagir. Sur le plan économique, évidemment, les conséquences sont désastreuses. On a de la part de la CEPAL déjà des estimations de recul du PIB qui sont de l'ordre de 6 à 8 points en fonction des pays. Donc évidemment, ça va amplifier des fractures existantes en matière d'inégalité. On estime à plus de 20 millions de personnes qui vont entrer à nouveau dans la pauvreté et un peu moins, si mes souvenirs sont bons, sous la ligne de l'extrême pauvreté. Les scénarios ne sont pas très optimistes pour l'Amérique latine et au-delà de ce qui se passera en interne dans chacun des États qui sont par ailleurs fragiles dans leur capacité de réaction vis-à-vis de la pandémie, c'est la place du continent dans son ensemble à l'international qui est aussi révisée dans la mesure où cette capacité à peser dans les débats, cette capacité à peser sur l'élaboration des normes internationales, par définition, elle est fragilisée aussi par cette incapacité à, on va dire, stabiliser les scénarios nationaux, à stabiliser le fonctionnement institutionnel et à consolider les démocraties.
Merci Kevin Partenay.
Merci à vous.
Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Crise en Amérique latine, et c'est aux éditions Armand Collin.